En adoptant une approche de la créativité en quatre points fondamentaux, managers et collaborateurs gagnent en efficacité et développent une dynamique d'innovation constante. La voie à suivre. Tout repose sur l'intégration de nouveaux modes de pensée et une vision différente des situations. En analysant chaque problème sous un jour nouveau, des solutions originales et novatrices émergent naturellement. Dans l'océan de discussion sur l'avenir du travail, il existe un îlot de stabilité, la conviction que nos emplois vont devenir de plus en plus créatifs. Le Forum économique mondial, McKinsey et la quasi-totalité des grands groupes de réflexion semblent s'accorder sur cette hypothèse et fournissent pléthore de données venant la corroborer. Cette tendance ne se résume pas à automatiser des tâches répétitives, elle répond aussi à l'accélération du rythme du changement et à la complexité croissante du monde des affaires, qui nous demande d'apporter plus que jamais auparavant des solutions originales à des défis inédits. Nombre d'entreprises considèrent aujourd'hui la créativité comme une compétence essentielle chez tous les salariés, en particulier ceux de première ligne, et dans toutes les fonctions, des ventes et du marketing, à la comptabilité et aux opérations, en passant par le service client. Les managers et les responsables des talents doivent donc réfléchir finement à ce qu'il convient de faire pour cultiver et gérer cette compétence. Si, comparé à d'autres domaines de la psychologie et des neurosciences cognitives, la science de la créativité en est encore à ses balbutiements, la compréhension croissante que nous en avons laisse entrevoir de nouvelles orientations pour le développement créatif. Dans ce chapitre, nous proposons une typologie permettant de scinder la pensée créative en quatre types. L'intégration, ou le fait de montrer comment deux choses en apparence différentes sont en réalité identiques. La division, ou le fait de voir comment des choses en apparence identiques sont en fait différentes, ou qu'il est plus utile de les diviser en parties. L'inversion figure-fond, ou le fait de se rendre compte que l'élément fondamental ne se trouve pas au premier plan, mais à l'arrière-plan. Et la pensée distale, qui consiste à concevoir des choses très différentes de ce que l'on connaît. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, tendance à adopter un unique type de pensée, et il est utile de savoir lequel nous vient naturellement. Mais nous pouvons également apprendre à aiguiser notre créativité dans les autres dimensions. Les managers doivent à la fois comprendre leurs propres forces et comment équilibrer ces types de pensée au sein de leurs équipes afin de mener à bien des projets créatifs. Enfin, cette typologie peut être utilisée par les entreprises pour favoriser l'innovation au sein de leurs effectifs. L'intégration. L'intégration peut être locale, par l'assemblage de quelques concepts, ou globale, par l'élaboration d'une grande théorie unificatrice. Le célèbre mathématicien du XVIIe siècle Isaac Newton était un génie de l'intégration. Après qu'il eut développé, en concurrence avec d'autres, le calcul infinitésimal, une discipline hautement intégrative, lui vint l'idée qui allait le rendre encore plus célèbre. Sa découverte, comme on le sait, implique une pomme, mais celle-ci ne lui est pas tombée sur la tête. Une nuit, alors qu'il regardait par la fenêtre, il constata qu'un fruit de 5 cm de diamètre, posé au sol à 6 mètres de lui, occupait le même volume d'espace visuel que la lune dans le ciel. Et ce n'est pas sur la perspective qu'il s'est interrogé, mais sur le fait de savoir si la force qui attirait la pomme vers le sol était la même que celle qui maintenait la lune en orbite. C'est cette idée qui a donné naissance à sa loi en carré inverse. L'attraction gravitationnelle entre deux corps est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. L'intégration est souvent au cœur de la découverte scientifique. Aujourd'hui, l'intégration est aussi une forme essentielle d'innovation dans le monde de l'entreprise. Prenons l'exemple de l'iPhone d'Apple. Son succès repose sur le fait que ses concepteurs se sont rendus compte que, lorsque des outils tels que les appareils photos, les téléphones et les lecteurs de musique sont numériques, tous capturent, stockent, récupèrent et transmettent des données de la même manière, au moyen de semi-conducteurs et d'écrans à cristaux liquides. Il était donc possible de les combiner en un seul et unique appareil, qui est peut-être l'outil le plus puissant dont nous disposions aujourd'hui. Il y a 40 ans, le téléphone à cadran était totalement indépendant de la radiocassette qui trônait sur la console de votre salon ou de l'appareil photo dont vous alliez ensuite porter les pellicules à développer au laboratoire. Comment la créativité intégrative se manifeste-t-elle dans le travail de tous les jours ? Prenons l'exemple d'un hypothétique détaillant de fournitures de bureaux baptisé Capella Paper, qui souhaite attirer davantage de clients de la génération des milléniaux. Jérôme, spécialiste du marketing par email de l'entreprise, planche sur la question. Il trouve plusieurs études indiquant que les professionnels âgés de 20 à 40 ans sont d'ardents défenseurs du travail hybride ou à distance depuis la fin de la pandémie. Il émet l'hypothèse que deux groupes que Capella traite comme distincts, les milléniaux et les télétravailleurs, pourraient en fait constituer un même groupe d'acheteurs de fournitures de bureaux. Jérôme récupère une analyse réalisée par son équipe sur un pic d'achat de fournitures de bureaux à domicile au printemps 2020 et cherche à voir quelles promotions par email ciblant tous les travailleurs nouvellement passés au télétravail ont eu le plus de succès à cette période. Il sélectionne une ancienne promotion offrant des recharges gratuites de toner d'imprimante pour tout achat de papier en gros et apporte quelques modifications afin d'intégrer le nouveau public visé, ce qui se traduit par un taux de clic de 35% supérieur à la moyenne de l'entreprise pour les clients de la génération des milléniaux. La division. Le type de pensée créative opposée est la division, dont les exemples ne manquent pas dans l'histoire des sciences. Le tableau périodique des éléments divise la terre, l'air, le feu et l'eau en 118 parties. Les grandes avancées médicales résultent souvent de la séparation de ce que l'on pensait être une seule maladie en plusieurs, chacune pouvant alors être traitée de manière plus ciblée. L'une des plus grandes innovations manufacturières de tous les temps, la chaîne de montage, repose elle aussi sur la division. Avant la révolution industrielle, un artisan pouvait superviser la production d'un bien du début à la fin. Les armes à feu, par exemple, étaient fabriquées par des artisans qui maîtrisaient à la fois le travail du bois et du métal. Il en allait de même pour les malles de transport et les horloges. C'est alors que l'inventeur suédois Christopher Polem a introduit le concept des pièces interchangeables qui pouvaient être fabriquées séparément d'un tout et utilisées dans une grande variété de produits. Au départ, nombreux furent les sceptiques. En 1785, lorsque l'armurier français Honoré Blanc a fait publiquement la démonstration qu'il lui était possible d'assembler un pistolet fonctionnel en sélectionnant des composants dans un grand lot de pièces interchangeables, les spectateurs furent choqués. Cette idée a conduit à une division plus poussée du travail humain, permettant de produire plus rapidement, avec davantage de cohérence et de manière plus évolutive. Ce processus est toujours utilisé aujourd'hui. On trouve une application plus récente de la division avec l'informatique quantique, un domaine d'application majeur de la physique des particules qui consiste à décomposer la matière en ses plus petits éléments. Alors qu'en informatique classique, un bit ne peut occuper qu'une seule position, le qubit de l'informatique quantique peut en occuper plusieurs simultanément, augmentant les capacités informatiques de manière exponentielle. En 2019, il n'aura fallu au processeur quantique Sycamore de Google que 200 secondes pour accomplir une tâche qui aurait pris 10 000 ans à un ordinateur classique. Ce type de créativité peut se révéler utile dans de nombreux scénarios professionnels. Chez Capella, par exemple, Carmen, chef de produit, a étudié les offres de l'entreprise les plus populaires auprès des milléniaux. Pour commencer, elle sépare les simples consommateurs des acheteurs professionnels, ces derniers effectuant généralement des achats pour leur petite entreprise. Les acheteurs professionnels peuvent être ensuite répartis en deux groupes, ceux qui commandent une grande variété de fournitures et dont les achats diminuent au fil du temps, et ceux qui n'achètent qu'un ou deux produits en grande quantité et dont les commandes sont stables, voire croissantes.